La vieillesse renouvelle la terreur à l'infini. Elle ramène l'être sans finir au commencement. Le commencement, qu'au bord de la tombe j'entrevois, est le port que la mort ni l'insulte ne peuvent tuer. La terreur, au bord de la tombe, est divine, et je m'enfonce dans la terreur dont je suis l'enfant. Il est très difficile de tenir droit sur la route, brûlante. Et d'abord parce qu'on ne peut pas regarder le lieu vers où elle chemine directement. La rétine est brûlée par le soleil. Car nous ne sommes pas des aigles. C'est pourquoi nous n'avons pas appris le bonheur dans la terreur de l'esprit. Celui qui n'est pas un oiseau ne doit pas nicher au-dessus des abîmes. Il faut donc faire un détour. Ce détour est la terre. La terre où l'on peut le meilleur comme le pire, où l'on fait le bien et le mal, pris dans notre nature imparfaite. Le bien, ça se donne d'abord comme le bien qu'on va faire à un autre, et le mal comme un préjudice qu'on lui porte. D'autre part, toujours dans le christianisme, le bien, c'est lié au mépris d'un être pour lui-même, alors que le mal, au contraire, implique la séparation entre les êtres. Nietzsche va remplacer le bien et le mal par le sommet et le déclin. Le sommet, ça correspond à l'excès, à l'exubérance des forces, qui est lié à des dépenses d'énergie sans mesure. Des dépenses d'énergie tellement folles qu'elles peuvent que violer l'intégrité des êtres. Ce en quoi ce sommet est plus voisin du mal que du bien, en fait. Au déclin, va répondre dans l'épuisement et la fatigue, notre souci de nous conserver et de nous enrichir, ce qui vient justifier les règles morales. La mise à mort du Christ est le plus grand péché jamais commis. Il possède un caractère illimité. Mais la faute en incombe à tous les hommes. C'est un mal qui porte atteinte à l'être de Dieu dans une nuit de mort où le Créateur et la créature saignèrent et se mirent en cause à l'extrême limite de la honte. La rencontre qui a eu lieu est désirée de Dieu et est née d'une faute de l'homme. C'est un peu étonnant, hein? Comment s'effectue cette rencontre-là? La culpabilité qui résulte de cette mise à mort vient déchirer l'intégrité de chaque être coupable et ouvrir une béance qui permet de renouveler la rencontre authentique. Ce qui se passe à ce moment-là avec le Christ est simplement le maximum de la possibilité exprimée par la position humaine, qui est assez désarmante, où la communication ne peut avoir lieu d'un être plein et intact à un autre, mais si toujours qu'on se mette en jeu, à la limite de la mort et du néant. On sait pas très bien qu'est-ce qu'on attend. Dans la communication, dans l'amour, le désir a le néant pour objet. Une espèce d'au-delà de l'être auquel on a affaire. Et qui nous met face à une attente inépuisable. Et l'angoisse, c'est le sentiment d'un danger face à cette inépuisable attente. Dans le domaine de la sensualité, ce qui attire dans l'autre, c'est sa blessure. C'est le point de rupture de l'intégrité du corps. C'est l'orifice de l'ordure. Cette blessure, là, elle ne met pas la vie en jeu, mais plutôt son intégrité, sa pureté. Nous avons tous horreur de l'excrétion. Même plutôt un dégoût difficile à surmonter. Et nous subissons l'attrait pour l'état dans lequel elle a lieu. La tentation, d'entrer dans la blessure, va donc nous mettre en mouvement dans des jeux charnels. Elle constitue la possibilité d'une communication, elle vient s'opposer un petit peu à cet ennui. Cet ennui qui révèle le néant de l'être lorsqu'il est enfermé sur lui-même. Car seul, l'être séparé s'étiole, dépérit. Nous sentons obscurément qu'à nous seuls, nous ne sommes pas. Ce néant intérieur, là, sans issue, sans attrait, nous le repoussons. Parfois, nous succombons au malaise de l'ennui, du néant intérieur, et ça nous renvoie à l'angoisse. Et dans la tentation, ce renvoi dans l'angoisse s'attarde sans finir à ce néant devant lequel nous place le désir de communiquer. Si j'essaye d'envisager l'obscénité. Et son néant indépendamment du désir, ce que j'aperçois, c'est seulement le signe saisissable d'une limite où l'être vient à manquer. Doux sentiment d'absurdité qu'on voit aujourd'hui partout. Mais dans la tentation, ce néant du dehors apparaît comme réponse à la soif de communiquer. C'est ainsi que l'être dans la tentation est broyé par la double tenaille du néant. La course au-dessus du gouffre nous fait sortir de nous-mêmes, de notre isolement. Si nous consentons, sinon à nous anéantir, au moins à nous mettre en jeu, mettant ainsi en jeu les autres. Toute communication participe du suicide et du crime. L'horreur funèbre l'accompagne. Le dégoût en est le signe. C'est en ruinant en moi-même et en autrui l'intégrité de l'être que je m'ouvre à la communion, que j'accède au sommet moral. Ça n'empêche pas que la désinvolture avec lequel ce geste de ruiner l'intégrité de l'être est effectué, cette désinvolture elle n'empêche pas une exposition violente dans la mise en jeu. Il ne s'agit pas d'oublier que si le sommet n'est à la fin que l'inaccessible, dès le départ, le déclin, c'est l'inévitable. La route est complètement impossible.
Home.
Maintenant, vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Rabié. Rabié était au bord du gouffre. Les gens du coin hésitaient à l'embaucher pour recycler les ordures ou à le jeter au fond du trou pour le faire taire définitivement. Ils décidèrent de le mettre à l'épreuve en lui demandant quel était le premier commandement. Juste comme ça, pour voir. Il leur répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors faut pas croire qu'il dit ça comme ça, hein, comme s'il disait quelque chose qui serait simple pour lui. Il a dû cracher dans sa plaie pour pouvoir suivre cette parole. Après avoir fait ça, il s'assit dignement et il écouta le souffle. Le vent dans les arbres ne laisse pas les feuilles intactes. Parfois, il peut les aider à tomber si leur temps est venu. Ou bien, le vent peut participer au chatoiement des feuilles au sein de la grande harmonie des choses. Jamais nous n'embrassons les possibles dans leur ensemble. Mais la nuit, énigmatique, nous dérobe l'objet vers lequel nous sommes tournés dans son infinie profondeur. À chaque fois, nous nous relevons pour faire une chose véritable, mais en tremblant devant son immensité. En craignant notre propre pouvoir de devenir Dieu lui-même. À ce moment-là, je me cogne le pied sur un caillou. Je me sais perdu. Perdu à jamais dans ce monde où j'ai l'impuissance d'un petit enfant. Alors, je n'envisage plus comme un terme le moment où se fera la lumière, mais celui où elle s'éteindra. Je me trouverai à nouveau dans la nuit, comme un enfant malade, et finalement comme un mourant. Mais celui qui a vraiment soif de vérité ne peut pas avoir ma négligence. Il lui revient d'épuiser à chaque fois le développement infini du possible, de tenter d'aller jusqu'au bout de la voie. Mais le plus loin possible, c'est encore de mon mieux. Alors que, désirant la vérité, l'exigence à laquelle j'aurais dû satisfaire serait absolue. Je doute. Je doute vraiment. Le tentateur, le démon, entend ce doute. Il attaque. Il montre les richesses du monde, le pouvoir, la possibilité de mystifier les hommes par des paroles mystérieuses. Rabbi Yehi était au bord du gouffre. Il se tient dignement, le regard vers l'infini. Et on n'ose pas lui jeter la première pierre, malgré son sourire. Un homme à la haute stature, qui détient les clés du pouvoir, fait arrêter la bille. Tous deux se tiennent droit. D'un côté la dignité d'être, et de l'autre l'indignité du pouvoir accumulé. L'accumulateur demande à Rabbi: qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place? Je te connais, tu sais. Je sais que tu portes le silence. La liberté que tu proposes naît au fond de toi, dans les profondeurs de ton âme. Si tu l'exposes, tu te salis. Tu perds la limpidité de l'eau du torrent. Mais il faut aussi te taire, parce que les hommes ne veulent pas de ta liberté, que tu nommes amour. Moi, je les aime, comme ils souhaitent être aimés. Je prends le bâton et je les guide. Et ils suivent mes lois. Et ils oublient le silence. Rabbi riait encore. Faut l'excuser. Il veut se moquer de personne. Seulement du monde. De cette insondable nature dont nous sommes l'issue. La mort nous coupera la parole à tous. Nous n'aurons pas à poursuivre éternellement l'épuisante tâche jusqu'à son extrémité. Nous sommes infinis de le faire. Le silence résonna. Ce fut la nuit.